Mediterráneo Isulá, na Córsega, Sardenha, Sicília.
La guerra ancora una volta lambisce il Mediterraneo. Il vicino Oriente è di nuovo in fiamme e la decisione della Turchia di attaccare le comunità curde della Siria rischia di generare un tragico effetto a catena. Da più parti si alza la richiesta di fermare subito le operazioni perché le armi non sono mai la soluzione ad alcun conflitto. Benvenuti a Mediterradio, la voce delle isole. Ogni settimana Sardegna, Sicilia e Corsica assieme sulle frequenze della RAI e di Radio Cors Frequenza Mora. Tre isole, tre studi, tre conduttori: Vito Biolchini da Cagliari, Salvatore Cusimano da Palermo e Pietro Luigi Alessandri da Bastia. Saluti amici.
E now è so pericolose in the work di ogni vaso, si è passato vicino a catastrofa in cui l'arinamento di Urodanius. Giorni va in cala longa, in piena riserva naturale, a nave è sempre sopra luogo, trasportato a 2600 tonne d'acciaro, presto ci tocca un regolamento più severi e mezzi adatti. Salute a tutti, Mediterraneo, franca tutte settimane e occhi, tranquilla senza danni e incupiegge.
Vito ha fatto bene a ricordare quello che accade abbastanza vicino alle nostre isole, e c'è da dire che ancora una volta i migranti vengono branditi come un'arma di ricatto, e questo l'Europa forse non lo deve più sopportare e intervenire con le armi della diplomazia, che sono le uniche che possono ottenere risultati a lungo periodo.
E allora i temi di oggi, quando i migranti eravamo noi. Il regista Salvo Cucci ha realizzato un documentario su un siciliano che è partito negli Stati Uniti, ha raccontato con parole e immagini la storia della sua famiglia. Una storia che fa il paio con quella di Francesco Zizzola, un fotografo che ha documentato in una mostra allestita a Bastia la vita a bordo della nave di Medici Senza Frontiere. A Ragusa si è tenuta la manifestazione Festival, l'unico italiano fra i 5 street artist invitati è stato il sardo Cirez. Poi daremo la parola ai giovani perché sono venuti a trovarci negli studi di Mediterradio gli studenti di tre scuole, Sarde, Corse e di Guadalupe, impegnate in un progetto Erasmus. Per l'apertura di oggi andiamo invece in Corsica per parlare di lotta alla criminalità organizzata. Da Bastia, Pietro Luigi Alessandri.
A mafia no a vita si è cu modo che lo ha lampato collettivo antimafia che si è costituito in Corsica dopo l'assassinio di Massimo Susini, in Cargese, giovane imprenditore in deudurismo. C'è in Corsica una crescita di violenza criminale e stufato gli è denunciato dai politici, anche se qualche volta c'è un legame tra certi politici e certe figure che hanno dato una reputazione d'onestà. Ad unito in corti, un collettivo antimafia ha definito un piano da azione, saranno organizzate per cominciare 5 riunioni in parecchi circondi dell'isola. A Corsica ha conosciuto da sempre situazioni di violenza criminale e politiche in cui durante parecchi anni attentati commessi da organizzazioni clandestine che per fortuna hanno cessato oggi, ma la violenza criminale non è mai sparita. Lo Stato francese non pare tanto disposto a mettere i mezzi adatti per combattere la grande criminalità, in particolare la confiscazione di beni criminali. Per Juan Claudio Acquaviva, attore culturale e membro di un collettivo, si tratta di pigliare in conto a parola di vittime e mettersi insieme per distruggere il sistema mafioso che colpisce a Corsica.
C'è oggi una crescita da fare cattivo quando usamente mafia, quando usamente pressione, quando usamente racchette, quando usamente vittime, assassini, eccetera, eccetera. Ciò ha ramintato lo Stato che, cioè lo via usato travaglio in Corsica come lui, dovrebbe fare, ciò ha ramintato di nuovo ai partiti politici che, cioè, che li siano chiari agli stessi, che non ci può essere collaborazione, non ci può essere contatto con niente, non sono mica trasparente, voi banditi chiamerete come la ribare.
Dopo essere stato bandiera degli scambi tra giovani universitari europei, da qualche tempo il progetto Erasmus coinvolge anche gli studenti delle scuole superiori. A cogliere questa opportunità sono state tre scuole di tre isole: l'Istituto Pischedda di Bosa in Sardegna, il Liceo di Borgo in Corsica e una scuola superiore di Guadalupe, territorio d'oltremare francese nel Mar dei Caraibi. I ragazzi sono stati ospiti insieme ai loro professori negli studi di Cagliari di Mediterradio, proprio nel giorno in cui tutta Europa festeggiava l'Erasmus Day.
Buongiorno, mi chiamo Ciara, ho 16 anni e so di Corsica.
Io sono Luca, ho 18 anni e vengo dalla scuola di Bosa.
Bonjour, je m'appelle Jean-Dominique, j'ai 17 ans et je viens de Guadeloupe.
Allora, questo progetto internazionale, l'Erasmus, ha messo in collegamento queste tre isole. E qual è l'impressione che ha avuto? Ci sono delle cose che uniscono queste tre realtà, secondo te?
Sono isole che fanno parte della Mediterraneo. Per me è già la prima volta che faccio un progetto su Erasmus. Mi piace fare scambi con altre persone, di imparare la lingua.
Cosa hai notato tu delle altre isole che ti ha colpito?
Diciamo che il modo di vivere, diciamo, molto diversamente da quello che possiamo fare noi in Sardegna. Tra i ragazzi e nelle diversità comunque tra gli adulti, modi di vivere diversi da quello che posso fare io.
Cosa ti ha sorpreso di più di questa esperienza nelle due isole?
Sono sorpreso per la libertà dei giovani e la loro autonomia. Il progetto mi ha dato la libertà di scoprire molte sfaccettature di questa popolazione, la cultura, le tradizioni, il modo di vivere.
Allora, questo progetto ha anche una finalità, cioè quella di provare ad aiutarvi a immaginare il vostro futuro. Allora vi chiedo, come vedete il vostro futuro lavorativo dopo questa esperienza? Avete avuto degli stimoli? Ci sono stati degli spunti interessanti?
Con questa esperienza vero un'apertura non da un mondo differente, andare meglio con le persone, parlare di più, c'è più scambi, per me si deve essere più aperto, perché noi in Corsica abbiamo paura di parte in altri paesi, ma questo progetto per me è di sapere un mondo.
La maggior parte di questi scambi ti aiutano, diciamo, anche molto con la lingua e quindi ti aiuta anche un po' nel mondo del lavoro.
C'è un collegamento effettivo fra questi due servizi, perché la mobilitazione dei giovani, la loro ricerca di orizzonti nuovi può essere una delle strade, non l'unica, per battere anche i fenomeni criminali. Ci vuole certo una legislazione adeguata, investigazioni sofisticate, ma la mobilitazione dei cittadini è fondamentale, come è fondamentale chiudere ogni rapporto di collusione fra la mafia, la politica e le professioni.
Condivido il parere di Salvatore, che è, ce l'ha raccontato, un specialista nella problematica della mafia. Ma se lo Stato non agisce mica, la popolazione non è mica aiutata. Dunque, lo Stato, il primo, deve agire contro la mafia e la popolazione e i giovani, bella sicura, può seguire.
E Acquaviva richiamava il tema della confisca dei beni sequestrati alle famiglie mafiose, un tema sempre presente anche in Italia. Esiste la legislazione, spesso complessa, spesso boicottata purtroppo dalle stesse amministrazioni, che dovrebbero giovarsi di questi beni, che, lo ricordiamo, dovrebbero avere una finalità sociale. Però quello chiaramente è uno dei punti cardine: confiscare i beni alle organizzazioni criminali è veramente un colpo durissimo dato alle stesse.
Prendiamoci una pausa musicale. Da una settimana è in tour Cesare Basile, autore che da 30 anni calca le scene con il suo sound personale, in cui i ritmi e le atmosfere del blues si coniugano con il dialetto siciliano. Il tessuto armonico è costruito su testi di denuncia, di contestazione, ma anche di storie d'amore e di amicizia. Basile cerca ispirazione anche nella musica africana, quella del Mali, per esempio, culla del blues. Ad accompagnare l'autore nella presentazione del nuovo disco, che si intitola Commedia, è un collettivo di musicisti, i Caminanti. In questo caso Massimo Ferrarotto alle percussioni, Sara Ardizzone alle chitarre, Vera Di Lecce, Alice Ferrara al sinta, alle percussioni e alle voci. Stasera Basile si esibisce a Spazio Franco a Palermo, poi giovedì prossimo a Cosenza e così via fino a tutto novembre. Il brano che vi facciamo ascoltare è L'Arvolo Russo.
La sta città che pare tutto mare, e tutto mare, mare onne chi è, ma non te può beare,
Ale la sta città cavare tutto mare. E c'è un arvolo rosso in faccia a sto gran mare, chi ne cucina sape perché, perché te può affettare. A c'è l'arvolo rosso in faccia a sto gran mare.
Una mostra molto interessante si tiene a Ugento Culturale una volta a Bastia, quella di fotografie di Francesco Zizola, fotogiornalista italiano. Ha passato 3 settimane a bordo di una nave Bourbon Argos dell'organizzazione non governativa Médecins Sans Frontières e ha fissato il dramma degli migranti che francano il Mediterraneo e spesso muoiono.
Sono voluto andare di persona a vedere questo relitto, questa barca, e mi sono immerso a 50 metri di profondità nelle acque di Lampedusa con la macchina fotografica, con una macchina da ripresa, ho fatto un video anche, e questo video e queste fotografie sono state viste, e ha colpito molto questo video, soprattutto l'immaginazione e la sensibilità di Medici Senza Frontiere, che proprio poco dopo, un anno e mezzo dopo, hanno voluto iniziare questa missione che è strana, stranissima per dei medici, di ricerca e soccorso nel Mediterraneo.
Francesco Zizola, quando si vede so fotografie si ha l'impressione che ste gente pigliano un poche di posture, allora che le so in situazione di verità.
Diciamo, nel mio linguaggio giornalistico, fatto di immagini, evito la modalità della messa in posa, di richiedere una postura. Il mio linguaggio, la mia tecnica linguistica si svolge attraverso l'osservazione e la cattura di momenti che appunto si svolgono davanti ai miei occhi. Certamente c'è un'interpretazione, certamente io decido cosa inquadrare, cosa non inquadrare.
Cosa ha voluto tradurre principalmente?
Ho voluto raccontare queste 3 settimane, specialmente rivolto al pubblico italiano e europeo. Io avevo ben presente quali erano i sentimenti che iniziavano a nascere sia in Italia che in Europa, di stampo xenofobo, a volte anche razzista, sentimenti contrastanti con la cultura e i fondamenti della cultura europea.
Proseguiamo su questo terreno. Condizionati come siamo dalla propaganda e dai social sull'emergenza migrazione, ci scordiamo troppo spesso che i primi migranti siamo stati noi, siciliani, ma lo stesso si potrebbe dire per gli amici sardi e corsi. Un regista siciliano, un documentarista instancabile, indaga da anni sulle storie e la storia dei siciliani. È Salvo Cuccia, premiato in tanti festival e rassegne, e ospite con le sue opere spesso di canali della RAI. Pochi giorni fa è andato in onda La Spartenza, film tratto dal diario di un contadino siciliano, Tommaso Bordonaro, che consegna alle pagine scritte col suo lessico povero ma autentico la sua esistenza dagli anni 20 del secolo scorso fino alla morte in un altro continente dove è emigrato per cercare lavoro e fortuna.
L'uomo dalle sue origini è un migrante, per cui i popoli migrano fin dalla preistoria e ancora oggi continuano questi spostamenti nel mondo. Forse noi ci siamo scordati, ma in America ci sono tutti i nostri connazionali, così come in giro per il mondo. E per questo ho voluto fare questo documentario sulla storia di Tommaso Bordonaro.
Ce la può raccontare?
Sì, la storia di Tommaso Bordonaro è una storia normale di emigrazione. Lui emigra nel 47 con 4 figlie, l'ultimo nasce negli Stati Uniti. Perché emigra? Perché vuole dare un futuro migliore, diverso ai suoi figli. In fondo lui non stava malissimo, ma neanche benissimo a Bolognetta. Capisce che i suoi figli avrebbero fatto una vita nei campi o con le greggi, ma alla fine decide di andare lì proprio per dare questa svolta, e ha questa grande capacità di pensare a documentare la sua vita attraverso la sua biografia e i suoi film familiari.
Perché li documenta, secondo lei?
Ma lui ha proprio una grande necessità di farlo. Necessità di farlo per chi è rimasto in Sicilia e anche per far capire ai suoi connazionali, ai suoi concittadini che sono in New Jersey, che la loro vita è cambiata, quindi vuole dare una testimonianza ed è cosciente di questa cosa, tant'è che solo 2 anni dopo che lui si è trasferito in America acquista una cinepresa 8 mm e comincia a girare, tant'è che nel documentario si vedono i suoi figli che erano piccoli fino al matrimonio, insomma, quindi lui aveva una grande capacità di pensare alla documentazione della sua vita.
È straordinaria questa testimonianza che ci insegna anche a guardarci dentro, a guardare anche ciò che è avvenuto nelle nostre famiglie. Sfido una famiglia a non trovare nella propria storia l'assenza, direi, di una migrazione. Siamo tutti migranti anche all'interno delle nostre famiglie.
Siamo tutti migranti e finalmente la migrazione è una ricchezza perché è anche un scambio e si sa che gli italiani che hanno migrato verso gli Stati Uniti da tanti anni hanno portato una parte di questa ricchezza.
Queste storie per fortuna sono state a lieto fine, ma bisogna ricordare che la migrazione oggi è soprattutto pericolo di perdere la propria vita. Il 7 ottobre, pochi giorni fa, 30 migranti sono morti e quasi nel 6° anniversario della strage del 2013, quando al largo di Lampedusa ne morirono 368. Forse sono cose che non dobbiamo dimenticare.
La musica dalla Sardegna, la cantautrice blues Irene Loche, originaria di Santa Giusta, nell'Oristanese, ha pronta la valigia per un tour che la porterà attraverso l'Italia fino ad arrivare in Spagna. A breve poi anche l'uscita di un nuovo singolo, poi un altro viaggio, questa volta negli Stati Uniti, per partecipare al NAMM, una fiera musicale che si tiene a gennaio in California. Di Irene Loche oggi ascoltiamo il brano Just in Time to See the Dawn.
Reeling back my whole life, it once again as it was now. But if I take just one more view, there's one thing I had to do. Though it's no easy to take a pledge, once I know how to judge moments that I need to keep and take them in my deep. So I take what's good.
Mediterraneo, nante frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, di RCFM in Corsica.
Per 5 edizioni il Festival, la rassegna della street art, è stata ospite della città di Ragusa. Ora è in cerca di nuovi approdi e progetti. La pittura murale è presente in molte città e spesso contribuisce anche a sottrarre al degrado le zone marginali delle metropoli o a ridare interesse a edifici non pienamente riusciti. Roberto Cirez è uno street artist sardo che ha contribuito all'edizione di quest'anno. Le sue opere non seguono il percorso del figurativo, ma esaltano soprattutto la dimensione astratta, eppure con una trascrizione assolutamente personale del paesaggio. Questo lo rende forse più famoso all'estero che in Italia e nella sua Sardegna. Per quest'ultima edizione ragusana della manifestazione è stato l'unico italiano ospite, insieme con Elian Ciali, argentino, Case McLean, tedesco, Misiti, polacco, Amparito, spagnolo e Fasoli Acajaz, anche lui argentino. Cirez ha affrescato l'esterno di una fabbrica di materiale edile.
La mia ricerca si basa proprio su questo, l'interpretazione in maniera abbastanza soggettiva del paesaggio naturale, insomma.
Il paesaggio ragusano è particolare perché per un certo verso sembra arido, per altri invece ha una ricchezza naturale straordinaria.
Io ho avuto una sensazione bella proprio dal punto di vista estetico, perché sì, è senza dubbio arido, no? Io vengo dalla Sardegna, la Sardegna forse è un po' più verde. Questa particolarità qui dei colori molto chiari mi ha catturato, mi è piaciuto particolarmente. Poi ho notato che Ragusa sta proprio in un punto dove, insomma, sembra un altipiano e ci sono delle piccole valli che vanno verso giù, ed è una cosa che io riutilizzo spesso nei miei lavori.
La street art, dopo i primi anni, quando è stata fortemente avversata, ormai viene riconosciuta. Lei come vive questa condizione?
Mi piace fare qualcosa e lasciare che alcune persone ne godano e altre no. Questi tipi di interventi qua vengono utilizzati esclusivamente per una riqualificazione. Quando, insomma, si è così estremi, non sono del tutto d'accordo, perché sinceramente non penso che una piccola parete dipinta o una parete anche grossa, in base alle dimensioni, possa cambiare un quartiere o uno spazio effettivamente a livello sociale. Però, insomma, senza ombra di dubbio dà una grandissima mano.
Lei vive e opera anche in Sardegna. Qual è l'apprezzamento che riceve nella sua regione?
Faccio un tipo di lavoro, non so, penso sia un po' complicato, sai, quando si parla di pittura astratta non è di certo come fare una pittura figurativa, che è molto più facile da leggere, arriva a tutti quanti. Insomma, non ho un grandissimo seguito nella mia regione, penso sia un po' più ampio all'estero, forse addirittura anche fuori dall'Italia.
Isole a confronto è la filosofia di Mediterradio, ma è anche la stessa che ha spinto tre scuole di Sardegna, Corsica e Guadalupe, ad incontrarsi grazie al progetto Erasmus+. Seconda parte dell'intervista ai giovani caraibici, a quelli dell'Istituto Pischetta di Bose in Sardegna e del Liceo di Borgo in Corsica. Voci di ragazze e ragazzi che raccontano così la loro esperienza di scambio internazionale e insulare.
Io mi chiamo Paolo Maria, ho 17 anni e vengo di Castaniccia.
Io invece sono Beatrice, ho 18 anni e vengo da Bosa.
Je m'appelle Léane et j'ai 17 ans et j'habite en Guadeloupe.
Allora, partiamo dalla Guadeloupe. Ti aspettavi l'Europa, la Corsica, la Sardegna in questo modo?
Ho visitato prima queste isole un po' su internet e ho avuto conferme.
Ça correspond à mes attentes, c'est bon.
E invece voi vi eravate fatti un'altra idea, tu della Sardegna che idea avevi?
Ma Sardegna... quasi lo stesso che la Corsica, per me vedo così.
Anche tu, Beatrice, la Guadalupe come l'hai vista?
È molto bella. Come la Sardegna ci sono degli aspetti naturali bellissimi. Ovviamente sono diversi, ma l'aspetto naturale è sempre fantastico.
Ma voi consigliereste ai vostri coetanei di fare questa esperienza di viaggio, di confronto? Perché i giovani spesso hanno anche paura di viaggiare, di confrontarsi.
Io sì, lo consiglierei tanto. Aiuta e ti apre un mondo bellissimo. Ora che ho partecipato a questo progetto, lo consiglierei anche ad altri ragazzi per ampliare la propria cultura.
Cosa vi portate dietro? Un ricordo particolare di questa esperienza? Paolo Maria.
È che ho un po' parlato di più l'italiano e che ho visto le culture della Sardegna e i paesaggi, così le montagne e tutto, la diversità di...
Il mare caraibico, l'acqua cristallina che c'è anche in Sardegna, però anche lì è diverso ed è lo stesso molto bello.
La visita della grotta.
Mi sono piaciute la visita della grotta, i paesaggi, le montagne, il mare dell'isola.
Du coup, c'est beau. Et voilà.
Io dico, ci sono le pescatori, ci sono le città accanto al mare e c'è la differenza di noi perché noi siamo più in montagna, ma dopo... E gli stesso perché le persone sono brave qui, sono come in Corsica.
Interessante queste testimonianze, consiglieremo a Paolo Maria di fare ancora progressi in corso, ma ha un tempo a 17 anni. Tutti gli artisti che tu hai citato, Salvador e Neo Street Art, finalmente è un Erasmus di artisti, perché vengono di tutto il mondo, diremo, e lo street art è una maniera, penso, di ridare l'arte al popolo.
Io trovo interessante questo modello espressivo che ovviamente lascia dei segni molto interessanti nelle città, molto importanti. Palermo stessa ne ha alcuni che oggettivamente sono diventati luoghi di culto e servono anche in certo modo a riscattare le periferie dallo stato di degrado in cui spesso sono state lasciate.
Sì, il tema è quello della bellezza, perché la bellezza non deve stare soltanto nei nostri centri storici che sono meravigliosi, ma deve raggiungere anche le periferie. Allora la street art può aiutare le periferie ad essere belle.
Patrizia Boli ha cominciato a cantare in squadra in cui un'altra, Patrizia Gattagega, un gruppo si chiamava E due Patrizie, cantano ora di 30 anni e hanno pigliato ognuno a sua strada. Un canto di Patrizia Boli, un ambecchiato, e che sempre ogni incu, inteso canzone nuova di 2019, c'è un abbraccio appassionato.
Allora lo diedo l'abre, c'ha già appeso lo mio canto, per respirare lo doviado. Che mondo, senza più, sape che mondo. Un ricordo di dell'esco, d'una stonda messaggera, d'una bene gulurì.
È il momento dell'agenda di Mediterradio.
Domenica si tiene a Palermo la mezza maratona, in palio 6 titoli italiani individuali. Si correrà anche la quarta e ultima tappa del campionato italiano di corsa 2019 con le assegnazioni dei titoli a squadre maschili e femminili. Fra i padrini dell'iniziativa l'ex primatista azzurro Rashid Berradi. E ora una notizia che farà piacere a tutti gli amanti della lirica e della musica e quindi anche al nostro carissimo Pietro Luigi Alessandri. Sarà il Parsifal il 26 gennaio prossimo ad aprire la nuova stagione del Teatro Massimo. Si tratta di un nuovo allestimento in coproduzione col Teatro Comunale di Bologna del regista Graham Beck, già protagonista nel capoluogo siciliano con la Tetralogia di Wagner. Direttore d'orchestra, il nuovo direttore musicale del Teatro Massimo, Omer Meir Welber. In programma per il 2020, 10 titoli di opera, 3 di balletto, 14 concerti, ai quali si aggiunge il doppio appuntamento di Capodanno del 1 gennaio.
Fortunate sì di andare al Teatro Massimo a vedere Graham Beck, che è un grande regista d'opera, ma può anche sorprendere, perché ha sorpreso a Pesaro quest'anno della Semiramide. Allora, in Corsica si continua fino al 25 ottobre a mostra fotografica di collezione di un centro mediterraneo di fotografia a Casa di Agricoltura in Bastia. Questa mostra presenta una selezione di fotografie realizzate a parte di una migliaia di opere e propone una visione plurale di Corsica e di un Mediterraneo.
E questo fine settimana appuntamento al Teatro Massimo con il Cagliari Film Festival. Segnaliamo stasera la pellicola di Andrea Segre, L'ordine delle cose, sul tema delle migrazioni. Domani spazio al docu-musical Il raccolto di Andrea Paco Mariani sulla comunità Sikh stanziata stabilmente nella zona dell'Agropontino e domenica omaggio a Bernardo Bertolucci di Jacopo Quadri. E poi stiamo a Cagliari, dove stasera alle 21 al Teatro Adriano, nell'ambito del Festival Love Sharing, prima nazionale di Duennas, storia di una donna tra magia e musica. In scena gli attori della compagnia Teandric Teatro Non Violento e il musicista Gavino Murgia, diretti da Maria Virginia Siriu. E si conclude questa puntata di Mediterradio. C'erano a Cagliari la parte tecnica Salvatore Vargiu, in regia Serena Schiffini.
In Bastia tecnica c'era Giulio Lavondaggi.
Qui ci ha fatto l'onore di essere con noi il fotografo tecnico Francesco Fresta. E poi Alessandra Ribolini e Eliana Escheri, la nostra regista. E vi diamo appuntamento con il podcast.
Abideci a tutti. Nous retrouverons nos amis sardes et siciliens la semaine prochaine. Mediterradio continue avec votre serviteur Pierre-Louis Alessandri. On parlera tourisme, mais dans les Alpes-Maritimes, avec le président de la fédération hôtelière de ce département, Denis Cipollini. Et puis on parlera cinéma avec le palmarès du festival Arte Mare de Bastia, interview de Mounia Medour, réalisatrice algérienne, et chronique de Dominique Landron sur le prix Pedro Mari. Nos intermèdes musicaux seront illustrés par une version en allemand de la célèbre chanson Solenzar par la chanteuse Alexandra. Et Alvaro Soler nous fera découvrir sa cintura. Mais avant, la revue de presse méditerranéenne avec deux titres importants, les élections présidentielles en Tunisie et la condamnation des indépendantistes catalans en Espagne.
Méditerranée, la revue de presse.
Le nouveau président de la République tunisienne, Kais Saied, prendra ses fonctions officielles la semaine prochaine. Professeur de droit, conservateur, il est contre l'égalité homme-femme et la dépénalisation de l'homosexualité. Il a été élu avec 72% des voix. Mais la formation du gouvernement tunisien s'avère difficile. Après les élections législatives du 6 octobre dernier, aucun parti n'a obtenu de majorité. Sur les 217 députés, le parti Ennahda, islamiste, a obtenu le plus de sièges, 52. C'est lui qui sera vraisemblablement choisi pour former l'impossible gouvernement, mais son nombre de sièges ne pourra pas lui permettre de choisir, selon son bon vouloir, les partis avec lesquels il devra s'allier, note la presse Tunisie. La presse espagnole publie à sa une les photos des manifestations violentes qui se sont produites à Barcelone après les condamnations des indépendantistes catalans par le tribunal suprême espagnol. Les radicaux mettent à feu la Catalogne, titre le journal ABC. Le journal catalan El Punto Avui fait son titre sur la mobilisation qui continue. La Cour suprême espagnole a infligé des peines allant jusqu'à 13 ans de prison à 9 des 12 indépendantistes pour sédition et détournement de fonds publics. Condamnations qui sont nettement inférieures à celles réclamées par le parquet, souligne la presse, qui avait requis jusqu'à 25 ans de prison. L'Espagne, qui émet aussi un nouveau mandat d'arrêt international contre Carles Puigdemont, l'ancien président du Parlement catalan, instigateur du processus de sécession et en fuite en Belgique, en démocratie, personne n'est jugé pour ses idées ni pour défendre un projet politique, mais pour des délits prévus par la loi, a précisé le chef du gouvernement socialiste espagnol par intérim, Pedro Sanchez. L'Espagne, qui entre en campagne électorale, des élections législatives auront lieu le 10 novembre prochain. Après les élections du 28 avril dernier, Pedro Sanchez n'ayant pu trouver une majorité suffisante pour gouverner. La saison estivale s'est conclue et l'heure est au bilan. Si en Corse il est mitigé, en face de nous, dans les Alpes-Maritimes, on est plutôt satisfait. Les professionnels notent une progression. Denis Cipollini, président de la Fédération hôtelière de ce département.
Méditerranée, le reportage.
Nous avons eu une belle fréquentation pendant toute la saison estivale sur la Côte d'Azur, notamment sur la ville de Nice, avec une augmentation de la fréquentation sur toute la métropole niçoise, peut-être un peu moins sur les autres villes comme Cannes ou comme Antibes ou comme Menton, mais la progression sur la ville de Nice a été très bonne pendant cette saison 2019.
Ce qui veut dire que le tourisme niçois, Côte d'Azur, est davantage un tourisme de masse aujourd'hui qu'il n'était auparavant un tourisme de luxe?
Ce serait trop simple de résumer ça, un tourisme de masse. Non. Vous savez, nous avons vécu, nous, le 14 juillet 2016. Et après le 14 juillet 2016, beaucoup de choses ont changé. Au travers de personnages importants comme le maire de Nice, Christian Estrosi, nous nous sommes tous réunis, les offices de tourisme, la profession, la CCI, l'UPE, tous les acteurs majeurs de l'économie niçoise se sont mis autour de la table en disant « bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Ce que nous avons fait, tout simplement, c'est que nous sommes retroussés les manches et nous sommes allés chercher les clients encore plus et ensemble, et en disant « voilà, maintenant, il s'est passé quelque chose de gravissime que nous ne pourrons jamais changer, les plaies ne se refermeront jamais. Maintenant, que faire pour attirer à nouveau des gens chez nous ?» Ben, c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous mettons en place, ce qui nous permet d'avoir les résultats que l'on a aujourd'hui.
Est-ce qu'aujourd'hui, il faut également penser à un tourisme méditerranéen, avoir des partenariats avec les autres régions au pays du pourtour méditerranéen, ou non. L'important est d'avoir sa stratégie propre.
Vous savez, le tourisme aujourd'hui est mondial, donc on ne peut pas avoir une stratégie nombriliste. Quand on parle de la métropole niçoise, bien sûr, on englobe tout ce qui peut tourner autour, et donc il faut qu'on ait des stratégies importantes. Vous savez, l'économie du tourisme sur la Côte d'Azur, sur la ville de Nice, c'est 18% du PIB. Quand sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est 13%. Et quand au niveau national, c'est 7%. Donc pour vous dire l'importance que ça représente pour nous sur la Côte d'Azur, l'activité touristique. Et on ne peut pas avoir comme stratégie simplement de dire on va s'occuper que de notre petite partie. Non, il faut se battre contre des pays qui sont très attractifs aussi. Nous avons les pays du Maghreb qui reviennent en force là maintenant. Nous avons la Grèce, notamment le Portugal, l'Espagne, l'Italie qui est toujours à la hauteur, puis d'autres destinations qui font qu'il faut vraiment que l'on soit ensemble unis. Et c'est important pour l'activité.
Sollen Zara. Aus der Ferne klingt ein Lied und berauschend ist die Luft, weil ein zarter Blütenduft durch die alten Gassen zieht. Blaue Nacht in Sollen Zara. Süße Früchte, roter Wein. Doch mein Herz, es ist so leer, denn ich habe dich nicht mehr. Du gingst fort, ich blieb allein. In Solen Zara, dort, wo mich das Glück verließ. In Solen Zara, dem letzten Paradies. Sitze ich am Ufer, leise rauscht das große Meer und der endlos weite Strand mit dem feinen weißen Sand ist am Abend menschenleer. Wenn du kämst, dann glaub ich kaum, selbst der allerschönste Traum könnte jemals schöner sein. In Solen Zara, dort, wo mich das Glück verließ. In Solen Zara, dem letzten Paradies. Solen Zara. In Solen Zara, dem letzten Paradies.
Denis Cipollini, il y a aussi un problème aujourd'hui qui est récurrent et qui occupe beaucoup l'actualité touristique, c'est l'hébergement Airbnb. Alors, est-ce que c'est un véritable concurrent pour vous et on a l'impression que ce mode d'hébergement prend de plus en plus d'importance? C'est bien ou pour vous, c'est problématique?
Alors, il y a plusieurs questions autour de Airbnb et j'aimerais qu'on puisse en parler juste un petit peu en essayant de mettre tout ça en place. Les hôteliers, la profession hôtelière n'est pas contre l'économie collaborative et participative. Ça fait partie des mœurs, ça fait partie des manières nouvelles de voyager, comme aujourd'hui nous avons par exemple des réservations de last minute. Nous, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est simplement l'équité. Nous ne sommes pas sur le même pied d'égalité. Tout d'abord, l'économie collaborative et participative au travers d'Airbnb n'est pas soumise à TVA. Moi, si je vous enlève 10% sur mon prix de chambre d'hôtel, vous serez content de l'avoir. Nous n'avons pas les mêmes règles, nous n'avons pas les mêmes contraintes contraintes au niveau de l'accessibilité handicapée, contraintes au niveau de les normes de sécurité. Il n'y a rien dans tout ça. Et tout ça, ça coûte très très cher à mettre en place et à mettre en œuvre. Et nous ne pouvons pas faire ça. Et nous, nous avons l'obligation de collecter la taxe de séjour, ce qui est le cas aujourd'hui maintenant de Airbnb en quasi-totalité. Mais pour vous donner un exemple, sur la ville de Nice, il y a 15 000 chambres de disponibles, ce qui est quand même pas mal. Il y a 12 000 offres Airbnb. Sur la Côte d'Azur, il y a au total 35 000 chambres, il y a 30 000 offres Airbnb. Vous imaginez un peu ce que ça représente pour notre économie. Nous, derrière, nous avons des emplois toute l'année. Nous avons la capacité de pouvoir drainer de l'économie. Derrière, il n'y a pas ça. Airbnb, aujourd'hui, c'est de la concurrence déloyale pour les hôtels. Nous, tout simplement, ce que l'on demande, c'est ça. Déjà qu'on mette une fiscalité comme la nôtre, parce que nous aussi, nous payons l'impôt dès le premier euro collecté, et non pas au bout d'une certaine somme. Donc, on mette les mêmes règles de base. Si après, les gens préfèrent aller dans les logements Airbnb, ben on verra bien. Nous avons fait la démonstration, nous, sur la Côte d'Azur, que les hôteliers savaient se mettre au diapason, savaient accueillir des jeunes, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes sur la ville de Nice, savaient accueillir des familles, ça nous l'avons toujours fait. Le malheur, monsieur, c'est que nous n'avons pas les mêmes moyens financiers. Donc nous, le lobbying et les moyens financiers qu'ont Airbnb qu'ils mettent dans la communication, nous n'avons pas les mêmes. Donc malheureusement pour nous, c'est ce qui pêche un petit peu aujourd'hui dans ce que nous faisons.
Vous avez éventuellement bon espoir que la situation devienne plus équitable ou pas, parce que ça emmène quand même du monde, ce genre de location, malgré tout.
Comme je vous ai dit, on n'est pas contre ça. Nous, tout ce que l'on veut, c'est qu'on soit sur le même pied d'égalité, que les règles soient respectées pour tout le monde. Donc ça amène du monde, oui. Nous avons des capacités hôtelières qui permettent d'accepter bon nombre de personnes dans nos établissements, et tant mieux. Il faut simplement appliquer la loi. Vous savez, quand on roule sur une autoroute, on ne doit pas dépasser 130 km heure. Ben, si on roule à 150, on se fait verbaliser. Ben, là, avec Airbnb, ce n'est pas le cas. Donc si nous avons des lois, il faut les appliquer, les mettre en vigueur et faire qu'on soit tous sur le même pied d'égalité. Après, comme je vous ai dit, on est ouvert à toute forme de tourisme, quel qu'il soit. Nous nous remettons en cause quand il faut se remettre en cause. Nous sommes les premiers à avoir travaillé sur Internet. Airbnb n'existait pas encore et dans les années 2000, nous avons été les premiers à être sur Internet et faire des réservations. Donc, on ne nous apprend rien à ce niveau-là. La seule chose, c'est qu'on ne boxe pas dans la même catégorie. Voilà, on n'a pas d'argument pour se battre face à ça parce qu'il y a un certain laxisme. Il y a un manque de courage politique aussi. Peu de maires aujourd'hui de communes sont capables d'imposer le numéro d'enregistrement. Ça, c'est un peu dommage aussi. Et à la veille d'élections importantes qui sont les élections communales, il serait bon que les maires prennent aussi en partie les électeurs qui sont les leurs. C'est-à-dire les électeurs, c'est les familles qui travaillent dans nos secteurs d'hôtellerie-restauration.
En conclusion, Denis Cipollini, est-ce qu'il ne faudrait pas, puisque ce problème de Airbnb concerne toutes les régions et les pays touristiques, est-ce qu'il ne faudrait pas une solution posée au niveau des États, peut-être au niveau européen éventuellement, qui est une directive commune par exemple?
C'est ce que l'on souhaite. En Europe, il y a des lois européennes qui devraient permettre de faire les choses de façon intelligente. On ne peut qu'attendre quelque chose qui nous permette de travailler dans un cadre normal. Vous savez, le problème Airbnb, ce n'est pas uniquement lié à l'activité du tourisme. Aujourd'hui, on n'arrive plus à loger nos actifs. Les actifs n'ont plus de logement parce que les gens ne s'embêtent pas à avoir des locataires. C'est très clair ce que je dis. On préfère faire du Airbnb. Et nous avons beaucoup de difficultés à louer des logements et nos actifs, encore plus que nous, ils n'arrivent pas à s'installer. Vous avez des quartiers complets qui deviennent des quartiers musées. Il n'y a plus de vie. Parce que quand il n'y a plus de logement, il n'y a plus de vie. Après, il y a le commerçant qui ne fonctionne plus. Puis vous avez des écoles qui ferment. Ils disent, mince, l'école du quartier a fermé, il n'y a pas assez d'élèves. Parce que Airbnb est en train d'assécher la vie complètement de nos quartiers, de nos villes, de nos centres-villes et de la périphérie. C'est ça le drame et le problème numéro un, plus que l'activité du tourisme. Nous sommes une partie de l'économie, mais la vie de l'économie générale, c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Le Festival des cultures méditerranéennes Artemare et de Bastia a connu cette année encore un beau succès. C'est le film du Palestinien Eila Souleiman, I Must Be Even, qui a obtenu le prix du jury. Le prix du public est revenu au film Papicha de la réalisatrice algérienne Mounia Medour que Dominique Landron a rencontré.
Méditerranée, l'interview.
Papicha
et mon premier long métrage. Moi, j'ai donc vécu en Algérie dans les années 90, un peu comme l'héroïne du film. J'ai vécu pendant les années noires. J'étais étudiante dans une cité universitaire un peu similaire à celle qui est décrite dans le film. Et donc, je me suis vraiment inspirée de ce vécu, de ce quotidien, de ce contexte politico-social qui a été assez difficile pour bâtir la structure narrative du film. Et bien évidemment, c'est un film hommage à toutes les femmes qui ont résisté pendant ces années noires en Algérie, qui ont continué à vivre, à avoir des rêves, à résister. C'est un film sur comment arriver jusqu'au bout de ses rêves, malgré les obstacles, et c'est effectivement un écho assez formidable avec ce qui se passe en ce moment dans les rues d'Alger, avec cette révolution qu'on appelle la révolution du sourire, avec toutes ces femmes qui sont dans les rues à la reconquête de l'espace public, ces femmes qui veulent changer le code de la famille, qui veulent plus de liberté, qui veulent plus de démocratie et d'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est vrai qu'il y a une forte ressemblance, même si le film, moi je l'ai écrit il y a plus de 5 ans de cela. Je l'ai tourné il y a 2 ans et on a fini de le monter exactement à la période où tout a éclaté, c'est-à-dire le 22 février.
Alors est-ce que ces filles ne sont pas les héritières de ces femmes qui se sont battues au nom du FLN à l'époque, qui ont été porteurs d'un changement de statut des femmes au moment de l'indépendance d'Algérie?
Mes héroïnes dans le film, elles ont 18 ans, donc ce sont des jeunes filles, femmes, qu'on a appelées souvent la génération sacrifiée. La génération sacrifiée, c'est celle qui a vécu leur jeunesse, leur adolescence pendant ces années noires, où l'oppression était très présente, où la liberté était absente. C'était ma génération aussi, et je me sens très proche de ces filles-là, de cette génération qu'on a appelée la génération sacrifiée.
Curieusement, ce sont des femmes qui vont attaquer ces jeunes femmes.
Oui, moi ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est la complexité des personnages. Ce que j'aime, c'est des gentils et des méchants, mais la nature humaine en elle-même est très complexe. Et donc c'est vrai qu'au moment de l'écriture du scénario, j'ai créé des personnages aussi bons que mauvais. Et c'est vrai que chez les filles, on ressent effectivement cette amitié, cette complicité, cet amour, mais en même temps, au sein de cette micro-société féminine, on a aussi des femmes qui n'adhèrent pas à cette liberté et qui ne sont pas pour cette émancipation des corps, notamment. Et c'est pour cela que, oui, ça existait réellement, des femmes tueuses à cette époque, c'était des choses qui pouvaient arriver.
Curieusement, il y a un symbole, c'est que c'est un défilé de mode. Qui est le fil rouge, justement, du film? Ça a une signification aussi.
Le défilé de mode a une forte symbolique dans le contexte. C'est-à-dire, le film se déroule donc dans les années 90, à un moment où on veut faire disparaître ces femmes de l'espace public, à un moment où on veut couvrir ce corps. Et moi, ce que j'ai voulu créer à l'intérieur de cette cité universitaire, c'était un peu d'espoir, un peu de féminité. Et Nejma utilise donc la mode comme étant un élément un peu fédérateur, un élément qui embellit ce corps, qui le dévoile, qui le dévêtit. Mais c'est une ode à la féminité aussi, c'est accepter d'être une femme et continuer à vivre avec. Et c'est une sorte de résistance aussi que de montrer cette féminité et de ne pas la cacher. À cette époque-là, accepter de s'habiller tel qu'on le voulait était un acte de résistance. Ne pas porter le voile était un acte de résistance.
Alors, ce qui se passe en Algérie, je pense, vous intéresse grandement. Quel est votre regard sur ce qui se passe là-bas, justement?
On vit un tournant assez extraordinaire en ce moment. Il y a eu la guerre de libération, il y a eu la décennie noire, malheureusement. Et là, aujourd'hui, il y a une nouvelle révolution qu'on a appelée, donc nous, la révolution du sourire, qui se passe extrêmement bien pour le moment, car les choses sont pacifiques, les femmes sont dans la rue, encore une fois à la reconquête de cet espace public. Alors il y a beaucoup d'espoir, mais il y a aussi beaucoup d'inquiétude. Il y a un moment, il faut prendre le taureau par les cornes et changer ce qui doit être changé.
Votre héroïne, elle choisit de rester. Ça, c'est aussi un symbole. Elle croit quand même en une Algérie moderne, au service de la femme égalitaire.
Dans le film, on a effectivement des personnages comme Nejma, qui est une résistante qui veut absolument rester, mais on a aussi Kaina, l'autre personnage qui rêve d'exil, pour qui le départ est une nécessité. Nejma, c'est l'opposé de ce que moi j'ai été. C'est-à-dire que moi, à son âge, j'ai été contrainte de partir, puisque la situation était très complexe. Et donc, il y a eu un réel déracinement à cette époque-là, pour continuer continuer à être en vie. Et donc, j'ai voulu créer au contraire un personnage qui lui résiste et décide de rester.
Alors, la citoyenne du monde, comment accepte-t-elle que son film qui devait présenter en Algérie en avant-première s'est annulé à la dernière minute?
On a eu cette mauvaise surprise d'annulation. Alors, effectivement, on a été très déçus par cette décision. On a essayé de trouver des solutions, des significations, des explications que nous n'avons pas eues, puisque vous imaginez bien qu'en ce moment, il n'y a plus personne pour répondre.
Il y a plus ministre de l'Agriculture et un gouvernement de transition.
Voilà, tout est en stand-by, en transition. Donc, on n'a pas eu de réponse à nos questions. J'espère qu'à un moment donné, on pourra le diffuser de façon officielle après les élections, peut-être en 2020. Mais le film continue sa tournée un peu partout dans le monde.
Chaque année, RCFM remet un prix pour le film qui a réalisé la meilleure prise de son. C'est le prix Pedro Mari qui est allé cette année au film palestinien. Dominique Landron.
Le jury du prix Cinéma France Bleu RCFM Pedro Mari Artemar 2019 a décerné son prix à It Must Be Heaven d'Elia Souleymane pour la Palestine. Découvert à Cannes où il était en sélection officielle et récompensé par une mention spéciale du jury et par un prix FIPRESI de la critique internationale, cela faisait 10 ans que Souleymane n'avait plus donné de ses nouvelles pour un long métrage personnel. De Nazareth à New York, en passant par Paris, une réflexion personnelle sur la Palestine, son destin, son existence. Un regard décalé sur fond d'absurde, de poésie ponctuée de gags, où le dialogue du personnage principal, interprété par Souleymane lui-même, est absent. Une histoire donc quasiment sans parole, dont la bande-son est signée Lars Ginzel et Johannes Doberens, qui portent et donnent du relief à ce film dédié à la mémoire du producteur Humbert Balzan, tristement disparu. Au regard de It Must Be Heaven, on pense au cinéma de Tati, voire Yoselani ou Coris Maki. Il peut déconcerter, mais quel talent et quelle fraîcheur cinématographique.
Causando impresión, cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando. Bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí que ya no puedo parar. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y
sur ces rythmes Méditerradio se termine. N'oubliez pas nos rendez-vous sur la Méditerranée, la chronique quotidienne Mare Latino à 7h10 et Cantara le jeudi à partir de 21h. Merci de votre fidélité. Bon week-end.